Vous écoutez
RMC.
RMC.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok ? Allez, ciao, bonne soirée.
J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
Ici, c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi. Ensuite, ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. L'after en direct sur RMC, en direct sur la chaîne YouTube. After tiré foot, appelez-nous, le 32-16 est ouvert. L'after, c'est votre espace de liberté, à vous les supporters et acteurs du monde du foot. On attend les Marseillais, on attend les Lillois également, avec Florent Gautreux qui est là. Salut Florent.
Salut à tous.
Et avec Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut Flo, salut à tous.
Analyse des matchs, bien sûr, de Marseille, de Lille ce soir. Tout à l'heure, Julien Laurence nous rejoindra pour parler d'Aston Villa. Mais là, on va démarrer sur l'OM. L'OM qualifié qui affrontera donc l'Atalanta Bergame en demi-finale de l'Europa League. Une demi-finale de plus pour Marseille, les gars. Quelle histoire avec l'Europe, hein, pour l'OM, faut quand même le dire. C'est un éternel recommencement pour ce club. Bravo.
Histoire avec l'Europe. Enfin, soirée incroyable parce que, très honnêtement, équipe incroyable aussi, incroyablement faible, j'ai envie de dire.
Bah oui.
Benfica très faible, hein, faut le dire aussi.
Moi, j'étais limite à me penser qu'on allait rentrer bientôt. Là,
ouais, je ne vais pas toucher l'enthousiasme des Marseillais, mais c'est vrai que le match était vraiment mauvais. Après, on va y revenir. Mais surtout, cette équipe avec des gars sur une jambe, avec un bandé remplaçant, avec le gamin qui a l'Evade SVT demain, à 8h30, Lafond.
Ouais.
Gaël Lafond, il a Evade SVT demain, il est là, sur il se demande s'il va rentrer dans le...
Daou
qui
rentre.
Joue dans la défense et qui joue les patrons. Non, bah,
premier Daou.
Premier Daou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la soirée, elle est dingue parce que tu ne vois pas comment ils peuvent marquer dans un premier temps. Ensuite, tu te demandes comment ils peuvent ne pas prendre de but pendant la prolongation. Et à la fin, tu te dis, au tir au but, ça va être compliqué. C'est Di Maria, tu sais, qui est devant, qui tire en premier. Et finalement, c'est énorme et c'est eux qui passent.
Surtout sur les séances de tir au but, il s'était fait éliminer par Rennes en Coupe de France et par le Panathinaikos cette saison en Coupe de France.
Moi, je veux bien la malédiction des Français au tir au but, mais là, ça suffisait.
Ah oui,
là, Lille
cruelle. Ah oui, Shakhtar l'année dernière.
Et ce qui est dingue, c'est que pour avoir m'être souvenu du match Rennes-Marseille, tu sais, en coupe où Paulo Lopez avait dans le jeu arrêté un
péno,
et après ils avaient perdu au tir au but. Les Marseillais m'avaient dit, mais Paulo Lopez, il est pas bon en fait sur le tir au but. Et sur les deux premiers qui passent sous son ventre, je me suis dit, il doit en sortir au moins un.
Mais il part du bon côté.
Mais quand même, ils étaient pas bien tirés. En gros, j'ai été surpris.
Quand Di Maria a raté, ouais. Je sais pas pourquoi j'étais sûr.
Moi, sincèrement, je vais pas faire le pisse froid ce soir, Flo, que ce soit même pour l'OM, parce que c'est vrai que ça a été un match qui était très, très moyen. Le pire match, je pense, européen, ce soir, notamment en Ligue Europa. Mais voir comment l'OM termine cramé avec un effectif, dépeuplé, où tu l'as dit, Daou, Lafond, Murillo, qui remplace Mbemba, à la mi-temps. Mumbagna, Veretout qui est cramé à la fin, qui sort et qui derrière re-rentre. Non, voilà, l'OM a été au bout du bout du bout du bout et puis ils ont une demi-finale contre l'Atalanta. Moi je suis fier de mes clubs français cette semaine, entre le Paris Saint-Germain, Lille, même si c'est cruel, qui a tenu la dragée haute face à Aston Villa, et ce soir il y a quand même des perspectives. Atalanta OM et Dortmund PSG, moi je suis content, hein. Franchement, je suis content.
Le pire dans cette histoire, c'est que je dis pas que l'Atalanta est pas une très forte équipe, hein,
match
pas dire.
Retour à Bergame.
Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas un épouvantail, ça n'est pas Liverpool et ça n'est pas de l'autre côté City.
Exactement.
C'est Dortmund et l'Atalanta. Bien donc, sûr.
C'est dommage pour Daou parce qu'il aurait pu faire un week-end à Rome et finalement il ira à Bergame.
C'est clair.
Oui, tu prends la tête de série numéro.
C'est en semaine.
Ouais.
C'est vrai. Bien vu.
Tu prends la tête de série numéro 8, numéro 9, quoi. Tu prends pas Djokovic ou Federer en demi-finale.
Mais quand même.
Il faut respecter.
OM.
Ah, bien sûr, plus.
Mais surtout récupère, possible.
Des joueurs.
Un ou deux joueurs.
Klos, Mbemba.
Parce que t'as quand même, tu joues sans tes deux latéraux. Mais parce qu'il faut le dire quand même, après, on pourra critiquer le jeu de l'OM.
L'équipe, ils ont une équipe décimée.
Elle est
folle.
Elle est dingue. Mais ça, on va la citer. Paul Lopez, Kondogbia, défenseur central à côté de Balerdi, qui a été incroyable. J'aimerais y revenir juste après. Murillo, de l'autre côté, on a Luis Enrique qui arrive en janvier et qui joue latéral. Daou, Veretout, Lafond, Mumbagna, Aubameyang, Correa. Mais c'est
incroyable.
comment moi je félicite l'OM parce qu'ils ont été au bout du bout.
Obligé de faire entrer des joueurs du banc parce que de toute façon les mecs étaient cramés sur le terrain. À la fin, t'as Verré
sur le banc. Il y avait encore Kassim Abdallah et Yakin Saïd Madi.
Et quand même, on n'a pas cité le truc de la soirée qui est le plus dingue, l'hommage à Daniel.
Ah oui.
Le but de Mbagna.
Il fait une belle semaine. Après Mbagna, il fait une entrée
catastrophique. Il est nul. Il est nul. Je suis d'accord.
Franchement,
non mais attends. Techniquement, je voudrais faire un point juste un point important. Est-ce que c'est pas quand même une semaine terrible pour Daniel, qui a pris 4-1 avec le génie de Luis Enrique, avec le PSG, et qui prend un but de Mbagna avec l'OM qui qualifie plus ou moins l'OM?
Arrête. Daniel, c'est la semaine Barcola-Mbagna.
Ah, c'est ça. En plus, c'est son anniversaire dans 5 minutes.
Hein. Du coup, il est parti en week-end.
Ouais, quand Mbagna a marqué, après effectivement Bambi qui a mis la misère à tout le monde mardi, j'ai dit non, Daniel.
Heureusement pour lui qui fait une rentrée catastrophique.
Je me suis rappelé que c'était Walid. Je me suis dit putain, heureusement. Punaise.
Un peu plus sérieusement. Oui. Bon, il y a l'histoire de l'effectif qui est absolument. C'est vrai que c'est absolument dingue quand tu vois qui rentre dans un quart de finale retour de Coupe d'Europe.
Benfica.
Mais. Ils ont fait quoi ce week-end Marseille? Ils ont fait Marseille-Cassis, ils ont aller-retour? Ils ont couru?
Non mais Gilbert, c'est
Benfica,
une équipe.
Ils ont joué ce week-end.
Oui, non mais oui, d'accord.
Les gars, Marseille, ils étaient tous complètement
Gilbert,
cramés.
Gilbert, ils sont cramés.
Les gars de Benfica,
mais ils sont cramés depuis un long moment. Ils ont tiré tous. Ouais, Aubameyang, Verretou, Balerdi. Il y a des grosses blessures dans cet effectif-là. Non mais est-ce que c'est normal?
Non
mais
Gilbert a raison. Et Flo Germain, on a parlé pendant le match. Et moi, je veux revenir juste un point là-dessus. C'est sur la prépa. Et Flo Germain a annoncé qu'il y aurait sans doute de gros changements avant l'été prochain.
Il y a des problèmes physiques.
Non, mais il a raison. Parce que là, t'as raison sur un point. En dehors des problèmes des blessures, du trop grand nombre de blessures sur lesquelles il faut déjà se poser des questions. Certaines musculaires. Tu as effectivement cette fatigue. Je me souviens dans l'enchaînement des matchs, j'en avais parlé de Gassé qui se plaignait, qui disait on va essayer difficilement de passer le dernier match à Rennes, mais on sait pas si on va tenir.
Ils sont cramés.
Déjà un délire.
Et là, t'as raison. Gattuso qui arrive, qui dit l'état physique de l'équipe est déplorable.
Non, mais ils ont eu deux prépas différentes, celle de Marcelino. Celle de Gattuso, il y a un staff médical qui est catastrophique. Le staff médical de l'Olympique de Marseille, et je pense qu'il y aura, tu l'as dit, des changements. Et Flo Germain l'a expliqué l'année prochaine. Et cette année, entre les départs à la.
Je précise qu'ils ont un excellent podologue.
Ah oui?
Je sais pas si c'est toujours lui, monsieur Guerre.
Mais il a pas enlevé les boîtes à chaussures de Mbagna. Hein.
Ouais, mais là, il peut rien faire, je crois.
Mais en tout cas, on se rappelle, en janvier, les départs à la CAN, les Aubameyang, Verretou, tous ces joueurs-là qui ont tiré la langue, on le voit encore ce soir, ils terminent et puis, ils commencent à vieillir, hein. Aubameyang, il a 34, 35 ans, il peut pas faire 120 minutes. Balerdi, la même chose, qui a eu beaucoup de pépins physiques, mais qui a essayé de terminer la rencontre et ça fait un long moment. Gigot revient de blessure, Mbemba revient de blessure. On est sur un effectif du côté de l'Olympique de Marseille qui a flux tendu depuis très très longtemps, et c'est vrai qu'il faudra se poser les bonnes questions l'année prochaine parce que c'est pas normal de terminer avec cette compo là même si attention hein, c'est l'eau aussi de beaucoup d'équipes. Moi je me rappelle le Real Madrid terminer des prolongations avec des joueurs Valero, il y a toujours ces rebondissements, mais là à ce point c'est vrai que c'est pas normal.
Alors il y a quand même un truc Gilbert, c'est que malgré ça, malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même une âme, il y a quand même un truc à Marseille. Bah je veux dire dans ce stade,
il y a un lien avec la Coupe d'Europe qui est fou.
Il y a un lien avec la Coupe d'Europe, il y a un lien, le public a forcément le vieux truc du 12e homme, c'est un truc, mais ce soir ça a joué parce que même Benfica, les tireurs quand ils sont allés tirer, tu pouvais pas le voir. Mais d'ailleurs quand Otamendi a mis son but, il a fait un signe au public un peu à mon avis pas très clair, pas très clean, parce que en gros, il a senti la pression. Donc t'as le public, t'as quand même cette équipe. Il y a un état d'esprit, parce qu'évidemment ils se font cartonner techniquement et à juste titre, mais les mecs, Balerdi, c'est quand même un mec incroyable.
Le match qu'il fait ce soir, Balerdi, si les gens n'ont pas compris ce soir, ils comprendront jamais.
Hein. Balerdi ce soir.
Mais ce soir, sincèrement, le match de Balerdi, alors qu'il jouait avec un Gigot blessé, avec un Luis Enrique qui est pas latéral, Mbemba out. Si les gens n'ont pas compris, s'il y a pas des mea culpa sur les prochaines semaines dans l'after foot, Gilbert.
Il y a un truc, ça me permet de faire le lien avec ce qu'a dit hier, de manière très classe, Guardiola, après la défaite contre l'élimination contre le Real. Il a dit un truc très juste sur ce qu'est le foot, tu sais. C'est-à-dire qu'une équipe, tu vois, comme l'OM, qui est démunie à la fin, qui est décimée, qui ne marche plus, qui a du mal à marcher, l'âme et la capacité à défendre et à conserver ton but inviolé peut te permettre de t'en sortir. Honnêtement, là pour le coup, il n'y a qu'au foot avec ce sport à points rares que ça peut arriver. Et quand Guardiola a dit finalement, oui, on jouait mieux, c'est vrai, mais peu importe. C'est aussi le jeu de la tactique du Real a été la bonne. On n'a pas réussi à marquer, ça arrive en foot. Il n'y a qu'au foot que tu peux faire ça. Hier, j'entendais dans l'after qu'on disait, je sais plus, c'est Daniel qui disait, c'était un peu une D2 contre une D1. Oui, peut-être, mais peu importe, quelque part. Là, l'OM à la fin savait qu'ils auraient du mal à aller marquer, mais ils ont eu l'âme pour tenir. Et puis après, voilà, et je te dis, il se passe un truc pendant les tirs au but, quand Di Maria met sur le poteau, Di Maria, le meilleur frappeur au monde, des meilleurs frappeurs de coups de pied arrêtés au monde qui met sur le poteau, bon, bah, t'as un truc spécifique.
Et puis, globalement, sur la rencontre, sur les 90 minutes, l'OM mérite quand même la prolongation, hein, parce que dans les intentions, moi, j'ai trouvé quand même Benfica très, très faible et très, très restrictif dans son plan, avec le fait de pas jouer avec de vrais numéro 9, le fait d'être attentiste. Et oui, on se disait que l'Olympique de Marseille allait avoir du mal à mettre des buts, parce que hormis Aubameyang, il se passe pas grand chose dans les 25 derniers mètres. Mais globalement, dans les intentions, moi j'ai trouvé que le match de l'Olympique de Marseille a été les intentions, la réalisation, la réalisation c'est autre chose. Mais ils se sont donné les moyens de faire cette soirée européenne et de donner du plaisir à des supporters qui ont beaucoup souffert cette saison, avec cette saison calamiteuse en Ligue 1. Et le paradoxe, Ligue 1 Europe est quand même fou pour l'OM. On se rappelle qu'en début de saison,
Jérôme Thomas, ça va être la 7e demi-finale de Coupe d'Europe.
C'est pas anodin. Et je répète, après la catastrophe contre le Panathinaikos, où déjà il y avait eu une séance de tir au but, où déjà tu avais fait ton retard en menant 2-0, il fallait se relever en Europe, et ils ont montré de la fiabilité contre Benfica, contre Villarreal, contre le Shakhtar Donetsk, contre l'Ajax Amsterdam, contre Brighton, contre Villarreal. C'est pas des équipes, c'est pas des pompes à vélo en face, avec
la différence que l'absence de certains joueurs a pesé quand même là sur la fin de parcours, parce que contre Villarreal il y a eu 4 buts, il s'est passé un truc différent. C'est vrai que là la grosse déception vient de Benfica, t'as raison, alors que l'OM a fait son match pour marquer. Techniquement derrière il y avait trop de déchets, ça n'a pas marché.
Je rappelle quand même que l'OM était en demi-finale l'an dernier, hein. Vous vous souvenez pas, mais
en demi-finale de quoi?
Il y a deux ans, ils étaient déjà en demi-finale.
Ils ont fait
de Conférence Ligue.
Je le redis, ce club a l'ADN de la Coupe d'Europe.
Pas de la Ligue des Champions, mais de la C3, de la C4.
Il y a les trucs.
Oui, enfin,
ils l'ont gagné.
Non, je vous parle des jeux. Les gars, je vous parle de.
Je sais que t'es jeune, Wally.
Mais non, mais d'accord. Mais je parle de récemment, en Ligue des Champions, on a souvent été déçus avec l'Olympique de Marseille.
Pour moi, 93, c'est récent.
Wajdi est là.
Il y a 30 ans quand même. J'ai 30 ans, je suis né en 93.
Salut Wajdi.
Bonsoir les gars. Salut Gilbert. Salut Flo. Salut Walid. Non, j'étais pas au stade.
Ah oui, j'ai entendu ta voix, t'as pas une voix de gars qui s'en
fout. J'ai crié comme un fou devant ma télé, j'ai dû réveiller mes enfants, ma femme, tout le monde.
Bon, et quelle soirée, hein.
Incroyable, voilà, c'est incroyable, magnifique. Franchement, j'ai pas les mots. Limite, j'ai la gorge un peu émue parce qu'on vit une saison compliquée et franchement, ça fait plaisir, quoi.
Bah oui.
Ah, vous le méritez.
Plaisir, voilà.
Vous le méritez.
On le mérite. C'est que, voilà, on vit une saison compliquée. Quand tu vois l'équipe qui finit le match, t'as peur, tu trembles, tu te dis Benfica, ils peuvent planter à n'importe quel moment. Et là, t'as marqué pour rien. Et au final, on arrive à arriver au tir au but. Et comme un symbole, tu vois, le mec qui a fait gagner tous les titres à l'Argentine, il met sur le poteau. C'est incroyable.
Ouais. Bon, en même temps, c'était une réponse à Dibou Martinez qui nous l'a fait à l'envers une nouvelle fois avec Lille un peu plus tôt. Donc, tu vois, c'est.
Ouais, j'ai suivi ça sur mon téléphone.
Et celui qui a marqué, c'est celui qui a fait une rentrée catastrophique et qui a tout raté. C'est fou le football, hein.
Ouais, c'est incroyable. C'est pour ça. C'est franchement, comme vous disiez, voilà, c'est un peu. On vit des moments compliqués, mais voilà, comme t'as dit Gilbert, hein, ce club, il a une histoire avec une coupe, avec la Coupe d'Europe. Et juste pour information, c'est pas la 7e, mais c'est la 8e demi-finale de Coupe d'Europe.
Ah, c'est la 8e. Bon, Jérôme en a oublié une.
C'est que on a quelque chose avec la Coupe d'Europe. Ce stade, il a quelque chose. Tout le monde le sait, tout ça.
Attention, en 93, il n'y a pas de demi-finale. Hein. T'es qualifié direct pour la finale. Je ne sais pas si tu comptais celle-là.
Non, mais il y en a bien 8. Je te confirme, il y en a bien 8.
Bon. Maintenant, c'est l'Atalanta Bergame. Et c'est dans pas longtemps, hein, parce que c'est dans 15 jours. Hein,
ouais.
C'est ça le problème, en fait. Que maintenant, avec cette demi-finale, bon, nous, on ne s'enflamme pas parce qu'on on sait très bien d'où l'on vient et la saison qu'on vit, mais on sait pas en fait c'est quoi quel objectif on va se fixer. Est-ce que ça va être les 6 ou 7 derniers matchs de championnat pour essayer d'accrocher une place? Est-ce que c'est tout mettre sur les 3 derniers matchs de Coupe d'Europe? Si on arrive à les faire, j'arrive pas à me positionner.
Voilà, je sais pas si t'as l'effectif pour jouer les deux. Là par exemple le match à Toulouse ce week-end, je sais pas si Aubameyang, Veretout ou même un Balerdi vont être en capacité de le jouer. Hein.
Non, mais là ils envoient à fond et puis ses collègues de la seconde 4.
Là psychologiquement et physiquement ce qu'ils ont donné.
Sorti en classe verte à Toulouse.
c'est pour ça. Je sais pas comment me positionner. Bon après on sait que de toute façon voilà on est en demi, il faut qu'on joue le coup à fond.
Ah bah oui là. L'Atalanta et de l'autre côté le Bayer Leverkusen qui fait une saison incroyable et l'AS Roma qui depuis l'arrivée de Rossi est transfiguré. Alors oui pour moi t'es quatrième on va dire troisième avec l'Atalanta à égalité. Même si l'Atalanta ils ont sorti Liverpool donc il va falloir énormément les respecter. Mais t'as un coup à faire. T'es l'Olympique de Marseille, tu dois te donner les moyens de faire quelque chose quand t'es dans le dernier carré avec ces perspectives là. Comme pour le Paris Saint Germain.
Hein, de toute façon t'es l'outsider du dernier carré.
Ah oui, t'es l'outsider. Sur le site de l'UEFA, je te signale que malgré la réforme, le vainqueur de l'Europa League est directement qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Je dis ça comme ça.
J'imagine un peu, mais bon, on est encore loin. Mais bon, en plus, moi, ça me fait des émotions parce que ça me fait beaucoup d'émotions parce que je devais être à Benfica la semaine dernière, mais bon, avec ce qui s'est passé, j'ai perdu mon vol. Donc voilà, là, ce soir, j'ai pas pu aller au Vélodrome. Donc voilà, c'est vraiment, c'est magnifique, franchement.
Bien sûr, on est là pour savourer. C'est une soirée exceptionnelle. Mais c'est vrai que j'avais dit avant les tirages, je pense que Benfica était le meilleur ou le moins mauvais des tirages à ce moment-là, on l'avait dit dans l'after. Là, évidemment, c'est logique, tu rentres dans le dernier carré. Atalanta, Bayer Leverkusen, et il m'en manque un.
La Roma.
Faut être honnête, pour aller au bout et la gagner,
mais tu joues pas non plus Liverpool comme c'était prévu. Faut tempérer, bien évidemment. Mais je te dis juste que c'est beaucoup plus jouable. Je répète mon exemple tennistique de tout à l'heure. Tu joues pas le Big Four, quoi. Tu joues quand même une équipe, l'Atalanta, qui reste très très forte, mais qui peut te donner des perspectives un peu plus intéressantes que Liverpool avec Anfield au retour.
Merci Gilbert, merci à vous, continuez.
On n'a pas l'intention d'arrêter. D'ailleurs, on continue tout de suite avec Jean-Luc au 32-16 dans quelques instants. On continue l'analyse, on fera l'évaluation. Et ensuite, on parlera de Lille, éliminé au tir au but par Aston Villa. Séance de tir au but où une nouvelle fois, Dibu Martinez a martyrisé les Français. On en reparle tout à l'heure, évidemment, avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Florent Gautreau, avec Olivia Cherchour, on analyse la qualif de l'OM en demi-finale de l'Europa League, soirée historique une nouvelle fois. Bon, pas pour Lille malheureusement, qui déjà n'était jamais allé en quart de finale de Coupe d'Europe. On en reparlera tout à l'heure.
On va rappeler un truc, Gilbert, quand même, sur le moment là de l'OM. C'est plus que la qualif, c'est aussi la fin pour Gasset d'une série de 5 défaites.
Tout à fait.
C'est-à-dire que l'OM, ce match, va être un tournant. Alors peut-être qu'ils vont récupérer des joueurs. Mentalement, évidemment, il s'est passé un truc de dingue. Donc même pour les joueurs qui étaient en grosse difficulté vis-à-vis du public, comme Correa, comme Mumbagna, peu importe leur qualité, tu t'en fous un peu là. À ce moment-là, ils vont partir, ils vont quitter le club. En tout cas, il va y avoir une
forme de Mumbagna, Correa surtout.
Correa. Ouais. Mais c'est important parce qu'ils étaient vraiment pas seulement dans le côté blessé, fatigué.
Dynamique très négative
en termes de résultats. Même si c'était bizarre, ils ont gagné ce match avec le but de Mumbagna 1-0 avant même d'aller au tir au but. Et en dehors du fait qu'évidemment ils se sont qualifiés, je pense que ça peut être important quand même pour le championnat et pour tout le reste. Et pour Gasset, c'est important. Il était quand même sur les vrais bons matchs. On avait dit les vrais adversaires. Il était sur une série négative. Là, ils ont au moins renversé cette tendance-là. Franchement, battre Benfica, quels que soient les moyens et les joueurs que tu as sur le terrain, c'est beau.
Il faut valoriser. On dit souvent que nos clubs français, face à des petites équipes, n'y arrivent pas. Là, quand même, on parle, je répète, mais Shakhtar Donetsk, Benfica, c'est 2 quarts de finale l'année dernière. Alors oui, ils sont pas bien cette saison. Roger Schmidt, c'est compliqué. Mais faut se donner les moyens. Combien de fois on avait ces opportunités-là et on n'a pas réussi à les saisir. Donc bravo à nos clubs français, bravo à Marseille.
Tu parles de Roger Schmidt, il était déjà en difficulté. Là, oui. Le fait qu'à l'aller, ils n'avaient pas été contents. content de, du résultat et que là, il se passe mieux et de cette façon-là.
Ah, mais c'est raison. Si on fait l'after foot Portugal à Benfica.
Là, il n'est pas bien.
Ouais, parce que sincèrement, ce match-là. Faire ce match-là
contre. Ils vont voir contre qui ils ont joué.
Ah oui, non, mais. Et contre ce Marseille-là, parce qu'à l'aller, ils mènent 2-0. À l'aller, ils mènent 2-0, ils prennent ce but-là sur une erreur d'Antonio Silva. Faut rappeler, hein, c'est une double confrontation.
Quand ils vont aller faire l'interview du CPE de
on écoute un des héros du soir, Balerdi, tout de suite.
Quel match.
La nouvelle idole de Walid.
Je pense que c'est un des jours plus jolis de ma carrière sportive. Et ici à Vélodrome, avec ses supporters, avec mon père et mon ami là-bas, c'est magnifique. Je suis très émotionné. Maintenant, on a des choses à faire. J'espère qu'on continue avec ce chemin.
Voilà, c'était sur M6.
Non mais Gilbert, sincèrement, Balerdi, le match qu'il fait ce soir, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais c'est extraordinaire. Je répète, sans
on
Mbemba,
même vu faire une roulette. Hein,
sans Mbemba, non mais les anticipations, les duels, l'intelligence de jeu, le sacrifice, parce qu'il est cramé depuis la 90e
plus
minute.
Le tir au but.
Plus le tir au but, sa qualité de relance, son leadership, avec un Gigot qui sort, avec un Mbemba qui sort, avec un Luis Enrique latéral, Murillo latéral, Kondogbia défense centrale. Et en plus, ce mec-là, je répète, mais tous les échos qu'on a, il a un super état d'esprit, c'est un super mec. Moi je suis complètement fan. Et s'il y en a qui ont pas compris encore ce soir, je répète, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Alors oui, il fera des erreurs, hein, parce qu'on attendra la prochaine erreur contre Toulouse ou contre Brest. Mais tous les défenseurs font des erreurs.
Jean-Luc, bonsoir.
Salut Jean-Luc.
Bonsoir.
Salut Jean-Luc. Jean-Luc, tu sors du stade?
Ouais, je sors du stade. J'ai plus de voix.
Bon.
L'OM est genre le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe, hein.
Pardon?
Donc, on est le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe.
Ah, ça commence à chauffer.
Il y a le PSG quand même, il y a le PSG.
Il y a nous, il y a un club qatari. Mais le dernier club français, c'est l'Olympique de Marseille, comme d'habitude.
Non, il y a le PSG, il y a le PSG.
Non, ils sont, c'est un club qatari, c'est pas un club français.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, on est sur l'évaluation, là.
Vous n'avez pas été bon dans le championnat du Qatar, alors, cette année. Hein.
Ben non, non.
Vous êtes un club américain, alors, vous, non?
Non, pour l'instant, on est
un club de MLS, non?
Ouais. On est sur l'évaluation, là. On a dit que Balerdi avait fait un match magnifique. Ah, qui d'autre Balerdi, est-ce que tu veux citer?
Ah, hey, t'as dit.
Balerdi, extraordinaire. Je crois que c'est le. Je me demandais depuis quand on n'avait pas vu un défenseur marseillais faire un aussi grand match. Je me posais la question depuis quand? Moi, j'ai 54 ans. Je n'ai vu des grands.
Non, mais Mbemba, il t'a fait des grands matchs, même cette année en Coupe d'Europe, hein.
Ouais, je crois que c'est le plus grand match que j'ai vu depuis très longtemps d'un défenseur marseillais. Je voulais souligner le courage de Veretout.
Ouais. C'est fiable encore Veretout. Hein.
C'est fiable, mais ouais. À la fin, il est cramé. C'était très très compliqué. Ouais, dans la prolongue, il a rendu beaucoup de
balles. Top, Aubameyang en direct. On l'écoute. Pierre-Emerick Aubameyang, on revient. Jean-Luc ensuite.
On a vu même Jordan qui en pouvait plus dès qu'il bougeait, il avait une crampe. Et voilà, il est quand même resté sur le terrain, il a tout donné. Et franchement, voilà, c'est à l'image de l'équipe ce soir.
Ça a pourtant été dur, mais il y a scénario qui soulage tout le monde. Vous y avez cru jusqu'au bout, ça a été ça la force d'avoir ce caractère, de se dire sur un coup, on va y arriver.
Oui, on savait. Je pense que déjà depuis le match aller, quand on a vu la fin de, enfin la deuxième période qu'on a fait là-bas, on a senti qu'on pouvait le faire ici, d'autant plus que ici, bon voilà, avec le public qui vous envoie la dose d'énergie qu'il faut. Et voilà, on savait qu'il fallait être patient aussi parce que voilà, c'était pas simple. Et puis au final, voilà, sur la fin de match, en étant patient, on a réussi à trouver le déclic et marquer ce but qui nous fait énormément de bien et très heureux pour Faris pour ce but.
Après, honnêtement, comment on analyse tout ça? Parce que cette saison, elle est folle, elle est irrationnelle. Vous avez des blessés, des minots qui rentrent. Pierre-Emerick, on peut l'analyser cette saison? Ce match, c'est quasiment impossible.
Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve ça que c'est vraiment incroyable. Voilà, les minots sont super bien rentrés avec une détermination. Le public, voilà, on a communié. C'était vraiment incroyable. Franchement, quelque chose d'incroyable, malgré que, voilà, on sait que la saison a pas été simple. Mais voilà, il y a cette Coupe d'Europe qui est là, et elle est là depuis le début, donc on va tout faire pour aller au bout.
Dernier mot, Atalanta en demi-finale, évidemment un adversaire costaud qui a éliminé Liverpool, mais voilà, on se met à rêver d'une finale, et pourquoi pas d'aller au bout, tout simplement, Pierre-Emerick ?
Bien sûr, de toute façon, là où on est, je pense qu'il faut, c'est ce qu'il faut se donner comme objectif, aller jusqu'au bout, et cette fois-ci, il a gagné.
Merci beaucoup.
Voilà pour Pierre-Emerick Aubameyang qui était en direct. Jean-Luc, je reviens vers toi. Tu citais Veretout et son courage. On est tous d'accord.
Il y a quand même un gars qu'on a
Murillo, bon match aussi.
Très bon match.
Paulo Lopez, excellent joueur.
Avant les tirs au but.
Toute l'année.
Hein?
Il y a un joueur que je déboîte toute l'année depuis deux ans. et qui ce soir a fait un match extraordinaire, c'est Paulo Lopez.
Bah oui, bien sûr, c'est ça l'histoire du match.
Je le massacre depuis qu'il est arrivé, en fait. Voilà.
C'est pour ça, Jean-Luc, que je le signale, parce que aujourd'hui, dans le match, il vous maintient en vie. Faut pas oublier ça avant que Moumania ne marque. C'est un gars qui a toujours été très franc dans ses réactions après match, qui a effectivement été mauvais parfois, qui s'en est rendu compte, qui a été en dépression, faut le dire aussi, il en a également parlé. Donc tu te dis, bah, est-ce que ce gars-là, avec ce genre de mental qui va aller au bout, bah, là, il a été présent, il a été bon, il a été fort dans les tirs au but, alors que c'est pas sa spécialité.
Il a tenté quelque chose sur la séance de tirs au but, un peu, hein, une Dibu Martinez au début. Ouais, mais prendre un peu de temps.
Il y en a un qui passe dessous, là, tu te demandes comment
Mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai senti une approche un peu différente. Et puis, c'est pas un spécialiste des tirs au but. On l'a déjà vu à maintes reprises. Et là, quand même, il fait une grande séance de tirs au but et il fait un très grand match. Et moi, je te le dis, d'autant plus, Flo, parce que je suis pas un grand fan de Paulo Lopez. Je trouve qu'il manque d'envergure. Je trouve qu'il a des défauts. Mais si l'Olympique de Marseille est en demi-finale de Ligue Europa, parce qu'on parle du match de ce soir qui est grandiose, mais il y a aussi le match retour à Villarreal où il évite un massacre. Vraiment, il y a deux, trois parades.
Il y a aussi des joueurs on peut parler du match d'Harit et de suite Moumbania en dehors du but par ailleurs. Ouais, mais Harit était titulaire.
Là, on peut les faire pêle-mêle. Hein. Harit, toujours exaspérant dans ses choix, comme à l'aller, où c'est une touche, deux touches en trop. Sur la première mi-temps, où Naïf fait une très très bonne première mi-temps et il saccage pas mal de situations quand Harit joue avec lui. Ndiaye, la même chose. Ndiaye, pas fiable. Pas fiable. Tout à l'heure, je parlais de fiabilité avec Veretout. Il y avait beaucoup à jouer pour India. Il avait un petit peu sa saison qui est très très compliquée. Un match à la maison, retour, il a été totalement transparent. Moumbania, oui, tu l'as dit, Moumbania, il est buteur, c'est le paradoxe, mais sa rentrée techniquement, c'est catastrophique.
Il n'y a pas un ballon. Non, mais c'est intéressant, tu as toqué sur les sélections africaines, parce que moi j'ai un cas un peu similaire que je suis à Rennes, et je le dis souvent avec Salah, qui ont été sélectionnés, l'un pour le Cameroun, l'autre pour le Maroc.
Non, il fait pas la canne, ça.
Non, mais ils ont été sélectionnés à un moment dans des équipes nationales. Oui. Franchement, techniquement, que ce soit l'un ou l'autre, mais Moumbania ce soir, alors tant mieux, il a marqué et il a cet état d'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça que les stats, il en est à 3 buts et une passe D, hein, d'ailleurs, au passage, Moumbania. Mais après, derrière, tout est saccagé. Ah ouais. Le contre sur la conduite de balle, les contrôles de la poitrine, les contrôles américains au pied, tout
et est. Et puis même les duels, il emporte tout à chaque fois, il contrôle pas son physique.
On va nous tomber dessus en disant, ouais, Moumbania, vous l'allumez.
Non.
Quand je suis revenu de la CAN, il n'avait pas joué une minute, et les échos que j'avais relayé ça dans l'after, c'est qu'on se disait, mais en fait, c'est étrange.
Après, Gilbert, on attend de regarder.
Mais
moi, ce que je t'avais dit à l'époque.
Je lui souhaite de marquer un doublé en finale.
Non, mais ce que je t'avais dit à l'époque, c'est qu'on va attendre d'avoir quelques matchs avant de l'assassiner. Là, ce soir, j'ai compris deux, trois choses. Parce que sur les premières rentrées, il était utile. Il marquait. Il avait marqué contre Metz. Il y avait un autre match aussi. Il avait marqué contre Clermont sur son entrée avec Marseille. Et il était dans un rôle axial. Il pesait pour Aubameyang. Et il était plutôt appliqué. C'était pas Kun Agüero avec le ballon, mais il était plutôt appliqué. Là, sur sa rentrée, hormis son but, il a tout raté.
Oui, c'est très simple. Moumbania, à part, tu l'as dit, peser sur une défense, c'est-à-dire tout ce qu'il fait sans ballon, comme plein de footballeurs, il peut le faire. Le Salah dont je parle à Rennes, tous les pressings, toutes les courses.
Après, c'est deux joueurs différents, Salah et Moumbania.
Tu veux dire, c'est très simple, très simple. Tu regardes ces joueurs-là sans ballon, ok, ça passe. Tu regardes dès qu'ils ont le ballon dans les pieds, terminé.
C'est compliqué.
Terminato.
Kondogbia, mieux. Mais moi, c'est pas Kondogbia.
Match solide, quand même.
Ouais, match solide. Et puis va mettre son but, penalty, etc. Ouais. Mais moi, c'est Murillo et Luis Enrique qui ont fait des entrées vraiment très positives pour l'équipe. Ouais. Murillo, agréablement surpris. Tu parlais d'écho. J'avais eu des échos en Belgique. Catastrophique, le joueur. Sincèrement, à chaque fois qu'il joue avec l'Olympique de Marseille, c'est plutôt fiable, c'est sérieux, c'est appliqué. Et Luis Enrique, la même chose. Luis Enrique, on n'en voulait plus à l'Olympique de Marseille depuis qu'il est revenu. Là, sur le côté, il lançait constamment Aubameyang dans le bon tempo. Franchement, il a été pertinent avec le ballon. Défensivement, il a été très, très intéressant. Unai qui, pour moi, a fait son meilleur match avec l'Olympique de Marseille j'ai été surpris de sa sortie. J'ai trouvé très positif en première mi-temps.
Peut-être qu'il aurait dû rester.
Moi, je sais pas. À la place d'Harit, moi je trouve qu'il aurait dû rester.
Dans ces matchs-là, moyen, je trouve que ceux qui ont été à la hauteur, et tant mieux, c'est les tauliers, c'est-à-dire les mecs d'expérience, c'est-à-dire les Gigot, Baleardi, Paulo Lopez quand même pour son, on va dire son statut,
Verretou,
Kondogbia et Aubameyang. Et en fait,
mais attention à Unai, Flo Unai, je le critique souvent, mais là il a fait un bon match.
Je parle sur mentalement aussi, ce qu'il apporte à tous les mecs à côté. Si t'es Soglo ou si t'es le petit Lafond qui rentre, t'as ces mecs là à côté. Verretou, c'est un exemple, même si à la fin il a eu du mal. Kondogbia, c'est un exemple. Aubameyang, c'est un exemple. Balerdi, c'est un exemple. Tu vois, les jeunes, on en parle beaucoup, mais ils ont à côté des mecs, la colonne vertébrale, qui a des épaules. Et cette équipe, d'ailleurs, Gigot, par exemple, c'est un symbole de ça. Cette équipe, Gigot, Balerdi, ils collent à l'OM. Alors, ils sont pas assez bons.
Avec
Gigot
des caractéristiques très différentes.
Non, mais Gigot est pas assez bon, sans doute, pour l'OM, mais ils collent à l'OM. Donc, au moins, les supporters se retrouvent au moins dans ça.
Et
la colonne vertébrale, le potentiel
d'Aou, très bonne rentrée. Très calme sa rentrée.
Très calme.
Il a fait vivre le ballon. Il a été.
Quand après, à la fond, il pourrait jouer peut-être avec Wilfried Bony un jour.
Je l'ai pas, celle-là.
Je suis référence historique.
C'est pas d'accord.
C'est plus rien à voir avec le rugby.
Non, ça a plus à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Dans quelques instants, Lille au programme. Les gars, on va analyser.
C'est vrai que c'est un after très court ce soir.
Bah oui, alors. Les supporters marseillais, les gars, il y a la libre antenne. Hein, donc d'ici 10 minutes, la libre antenne sera là. Si vous voulez parler de votre équipe, vous sortez du stade, vous avez envie de vous lâcher un peu dans l'after. Tout à l'heure, Thibaut Giangrande et Oussem Loussaïev seront là. Donc n'hésitez pas à appeler le 32-16. Lille dans quelques instants. Mais juste avant, j'ai une petite annonce à faire concernant l'envie de l'after. On a décidé de vous faire un petit cadeau de Coupe d'Europe. Là, vu les performances des clubs français, on vous offre 20% de réduc sur les abonnements annuels. Alors, vu de l'after, vous allez sur l'after.media et vous mettez le code promo RMC24 et vous aurez 20% de réduc. Ça, c'est cadeau. Dépêchez-vous parce qu'il y en a quelques dizaines, hein, des abonnements comme ça à prix cassé. Donc, sur l'after.media. Dans un instant, Lille, à tout de suite.
RMC jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 12h24, Walid Acherchour est là, Florent Gautreau est là, Julien Laurence va nous rejoindre, peut-être est-il là.
En fait, j'ai compris, Julien. Bonny, c'est la Gestapo. Ah, c'est les responsables français de la Gestapo.
T'as fait tes recherches ?
Non, mais parce que j'étais obnubilé par le match, moi, tu sais. Mais quand je me replonge un peu dans mes souvenirs, pas du
Julien
tout.
Julien est-il là ?
On me l'a soufflé.
Salut Gilbert, salut à tous.
On me l'a soufflé.
Bon, Julien, va falloir qu'on règle le cas d'Ibu Martinez. Écoute les temps. Qui en parle ? Et après, on en parle ensemble.
J'ai pas envie d'en parler, puisqu'on passe du temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui est pas celle d'un sportif de très très haut niveau, je trouve. Parce que dans le sport de haut niveau, dans la défaite ou dans la victoire, il faut rester calme, élégant. Donc j'ai pas envie de parler plus longuement. Je préfère qu'on se concentre sur nous et qu'on ressorte tous les aspects positifs de cette soirée.
Et maintenant, écoutez Dibu Martinez lui-même, qui répond à la question, mais vous êtes devenu le cauchemar absolu des supporters français.
J'ai passé toutes mes années à Arsenal et Aston Villa avec des joueurs français. Ce sont des gens très bien, je les aime. Quand vous jouez à un grand niveau comme en France, c'est normal que vous vous attendiez à vous faire malmener. Mais je me suis concentré sur mon équipe, sur mon pays, et tout ce que je fais, c'est de jouer pour ce club.
Alors, il y a deux choses. Soit on dit ce type-là n'est pas fair play, c'est horrible, machin. Soit on dit, messieurs de la Fédération Française de Foot, vous qui voulez organiser des séminaires pour qu'on gagne enfin des séances de tir au but, invitez Dibu Martinez. Il y a un week-end à Clairefontaine.
En fait, contrairement à ce que dit Létang, par exemple, le Dibu Martinez que j'ai vu aujourd'hui sur le match en général a eu un comportement tout à fait normal de gardien sur un terrain. Et je vais te dire un truc, c'est que Dibu Martinez, en étant ne serait-ce que sur le terrain,
est déjà français, il ferait la même chose.
Gilbert,
c'est le méchant du film, c'est comme ça. Il est très fort.
Ne serait-ce qu'en étant sur le terrain, il était déjà entré dans la tête des Lillois. Donc les mecs peuvent dire ce qu'ils veulent, même Benjamin André, dont j'allais dire qu'il était l'homme du match, qui est un joueur fort. Formidable que j'adore, et même lui il a craqué devant Dibu Martinez parce que son tir au but n'est pas le tir au but qu'il devait tirer en cinquième.
Mais parlons de la pression lilloise qui a été très très bonne plutôt.
D'abord Julien sur Dibu Martinez, est-ce que toi tu le vois en championnat, ils font un très bon championnat celui-là, faut le rappeler quand même, hein, c'est voilà quatrième.
Ouais, ils sont quatrième de première ligue, donc.
Martinez, c'est pas que le mec qui fait le show sur les séances de tir au but. Il fait aussi d'autres trucs. Il a des qualités. Et puis faut pas forcément rester que sur la finale de la Coupe du Monde, j'imagine.
Non, voilà, c'est ça. C'est un très très bon gardien. Il y a aucun doute là-dessus. C'est un leader de cette équipe d'Aston Villa. Là où je rejoins Flo, c'est que moi j'étais au stade et avant même que le premier tireur, donc avant même que
lui, il est à Barcelone le mardi, à Manchester le mercredi, à Lille le jeudi. Demain tu fais quoi?
T'es très loin. Lille.
Tous les grands matchs. Non, demain c'est repos quand même, Gilbert. Demain c'est.
Demain tu veux Red Star et quoi, Lille, non?
Ah oui, il faut que la montée demain.
J'aimerais bien.
Contre Dijon, viens Julien. Julien, viens, je te mets une crête. Oui, oui. Je te mets une crête demain, je te gère ça à 9h.
Il y a le nouveau Messi à Dijon en plus.
Ah, il y a Ryan Messi là qui est là.
En plus, il y a Ryan Messi, effectivement, ben oui. avant qu'il parte quelque part. Et donc sincèrement, mais tu le sentais dans le stade aussi, tu le sentais qu'il avait gagné la séance avant même qu'elle ait commencé. Le seul petit incident, c'est quand il fait le signe puisque les
ultras après le premier tir au but.
Voilà. Après le premier de Bentaleb. Ouais. Et à un moment, Pau Torres, son coéquipier, depuis milieu de terrain, lui dit, vas-y, calme-toi maintenant, parce que c'est vrai que ça commence à aller partir dans tous les sens. Et après, il a été beaucoup plus, respectueux, on va dire, dans le reste de la séance. Mais, il les a sauvés aussi dans le match parce que, ben, comme Walid avait commencé à le dire, c'est une très bonne performance de Lille ce soir.
Ils ont été
comme
très, au match aller
la semaine dernière. Sur les deux matchs, c'est la meilleure équipe.
Il y a peut-être un pélo pour Lille quand même, non?
Oui, peut-être un peu. Oui, peut-être. Oui,
ah, ça,
peut-être.
Je comprends pas. Oui, comment moi,
franchement, c'est ça. Non, mais excusez-moi, ah, c'est un vol, mais une nouvelle fois, à quoi sert la VAR?
Ouais.
À part foutre encore plus le bordel. Ah, non, mais... Parce que là, tout le monde voit une main. L'arbitre fait appel au VAR. La VAR dit ah non, il n'y a pas main.
La main de cash, elle est flagrante. Mais bon, globalement, parlons quand même.
Il dit à Benjamin André, pardon, il dit à André que le bras n'est pas décollé du corps. Il lui fait signe.
Il est décollé.
Oui, oui.
Ben moi j'avais l'impression aussi, mais c'est pas ce que la VAR lui dit, puisqu'il écoute la VAR et la VAR il répète ensuite à André ce que la VAR vient de lui dire clairement.
Ah, mais Julien, parlons quand même, parlons de la performance lilloise. Moi franchement j'ai été agréablement surpris. On connaît Lille, mais moi quand je vois Aston Villa battre Arsenal encore ce week-end, battre City il y a 3 mois et être capable de leur poser autant de problèmes à l'aller et au retour, sincèrement moi Aston Villa je les ai pas reconnus du tout, l'intensité etc. Techniquement j'ai trouvé que collectivement cette équipe lilloise a fait un super match. L'élimination, elle est cruelle. En plus, ils prennent un but sur un imbroglio entre Bentaleb et Chevalier.
Et pour une fois, Chevalier qui se trouve.
Exactement. Mais Chevalier qui a fait un match énormissime. Et Chevalier, j'ai pas envie de m'enflammer sur lui, mais il va aller très très haut, ce gardien. Je pense qu'il ira très très haut. Lenny Yoro, très grand match. André Bentaleb, très grand match. Sincèrement, Lille n'a vraiment pas à rougir.
Thiago Santos,
très gros match. Lille n'a vraiment pas à rougir de cette performance et faire ça face au quatrième de première ligue qui a un budget énorme, qui a avec Unai Emery qui est spécialiste des coupes d'Europe. Sincèrement, chapeau Fonseca, chapeau Lille.
Très ouais. Moi je voulais juste dire un mot de Fonseca parce que la façon dont il a pris les deux matchs, à la fois mentalement, dont il a dit à son équipe de jouer, y compris à l'aller. Et je pense qu'Aston Villa à l'aller a compris qu'en face il y avait une vraie équipe qu'il ne connaissait pas vraiment. Ils ont fait un match incroyable. Je voudrais dire encore une fois une mention spéciale. Juste sur un détail, parce qu'en dehors de ça, il fait plein de trucs, mais je l'avais dit dans l'after, Benjamin André est un joueur incroyable qui, en plus, prend les ballons de la tête sur les coups de pied arrêtés aux Anglais à 3 ou 4 reprises, en dehors du but. Donc c'est quand même un truc de dingue.
On parle de Douglas Lewis.
Un joueur fantastique, c'est un vrai leader aussi.
On parle de Douglas Lewis, ça coûte 100 millions d'euros sur le marché aujourd'hui. On parle de McGinn, on parle de ces mecs-là quand même. Sincèrement, c'est fort. Lille, bravo.
Ouais, très très fort. Franchement, bravo, je suis d'accord avec toi.
Il dit Aston Villa, c'est ta dernière équipe là.
Bah, oui. Ouais, bah faut laisser les autres gagner un peu, Gilbert. Faut laisser un peu les autres parce que bon là, on fait Ligue des Champions, Europa League comme ça, donc là on va gagner la conférence.
Qui fait tourner honteusement au match aller, finalement c'est logique.
Comment on explique ça en Angleterre, Julien, ça m'intéresse. On est déçus ou pas?
Ouais, on en a parlé un tout petit peu hier déjà avec Gilbert, Daniel et Manu Petit. Moi, je pense que l'intensité de la première ligue cette saison, surtout pour les trois dans la course au titre. Pompe tellement d'énergie que à un moment je pense que tu le payes aussi en championnat, notamment quand il y a qu'une semaine d'écart, 6 jours ou 7 jours d'écart entre tes deux matchs de Ligue des Champions, match aller, match retour, comme on l'a vu là par exemple. Je pense que ça pèse un petit peu dans les jambes à Arsenal, côté Liverpool aussi, côté Manchester City un petit peu peut-être hier. Je pense que t'as aussi le fait que ben voilà, ça joue à rien. Hier, City peuvent rejouer 9 fois l'Etihad contre ce Real là, peut-être ils se qualifieront les autres 9 fois. Hier, ça passe pas au tir au but. Mmh. Donc je pense qu'il y a pas mal. Je pense pas que ce soit quelque chose de structurel, plus de conjoncturel. On dit comme ça, conjoncturel.
Oui.
Dans le sens où voilà, c'est cette saison. Je pense qu'il y a pas de quoi s'affoler. Ça veut pas dire que la Première Ligue est moins forte ou qu'elle qu'elle régresse.
Moi je suis un peu déçu quand même. Je suis un grand fan de la première ligue et moi je suis après au-delà de City, mais je
tu pourras en reparler dans les grands
on en parlera.
Julien, merci.
Merci Julien.
Merci les gars.
Bonne soirée. Je rappelle quand même les affiches, je ne les ai pas données. Donc Atalanta-Marseille, match retour donc
à Bergame.
Et l'autre demi-finale, ce sera Roma-Leverkusen avec match retour à Rome. Leverkusen toujours invaincu.
Ils ont été arrachés l'égalisation à la 89e.
Et puis en Conference League, la Fiorentina affrontera donc Aston Villa. Et l'autre demi-finale, ce sera Olympiakos qui a gagné au tir au but contre Bruges. Voilà pour la Conference League. Deux petites infos avant Survivor et avant la libre antenne. Golovin forfait, grosse entorse, donc peut-être même fin de saison. Il est forfait pour le reste de la saison, c'est même certain. Voilà, donc Monaco perd Golovin. Et puis, petite histoire de Mbappé. Il y a eu une altercation dans le tunnel après le match à Barcelone. Mbappé qui a dit aux Barcelonais en espagnol, et dans un très bon espagnol apparemment, selon les témoins, c'est le football et c'est sur le terrain qu'il faut parler, aurait dit Mbappé en chambrant.
Il y a un début d'altercation derrière.
Voilà, exactement.
Mais il court tellement vite que
qu'il n'ont pas chauffé
dans le vestiaire.
Allez, Survivor pour conclure.
Est-ce qu'il fait en seconde 3 ou 100 mètres ?
Voilà.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Nouveau Survivor, 16 joueurs au départ du 5e Survivor de l'After de la saison. Vous pouvez jouer avec nous en allant sur winamax.fr sur la page Survivor de l'After. Je rappelle qu'il y a 10 000 euros de tribettes à se partager pour les gagnants. Pas mal de monde, je vous lance, qui reçoit Clermont ce week-end. Le Plat, Vexio, Jamin, Tours, Loussaïef, Braun. Ah non, Braun, il joue Toulouse. Riolo, Villas, Diaz. Il y en a qui jouent Le Havre, qui reçoit Metz. C'est le cas d'Orient, Dutin, Cherchour. Jérôme Thomas,
on va Rhin, le Havre,
qui reçoit Montpellier. Thibaut Giangrande joue Toulouse, qui reçoit Marseille. Tiens. Quant à moi, je joue Nice, qui reçoit Lorient. On ramasse les
Nice-Lorient.
Ouh là là. Nice-Lorient, c'est in the pocket. C'est,
ouh là là. Ouh, c'est risqué. Oh, c'est risqué. Oh, c'est risqué.
Mais alors que des matchs nuls.
Oh, 1-12.
D'accord, ok. On s'en reparle.
Merci Walid, merci Flo. La libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Ils sont là, Thibaut Giangrande et Oussem Loussaïef. C'est parti, le 32-16 est ouvert.
RMC, l'after foot.